bonjour à tous. Nous nous retrouvons à la bibliothèque Ateb Yacine avec des jeunes journalistes de la MJC des Eaux Claires que je vais vous présenter, qui sont Rafika, Sherazade, Oumou et Christina, dans le cadre d'une émission nommée L'Aventure au bout du micro, en compagnie de Vincent Villemino, un auteur français qui écrit comme pour les jeunes et pour les adultes. Il compte à son actif une trentaine d'ouvrages jeunesse. Il explore notamment dans ses romans plusieurs facettes du fantastique et de l'anticipation. Il est l'un des auteurs de la célèbre série U4, dont le tome est Stéphane, et il est l'auteur de la série du roman Black Cloud, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bonjour Vincent. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, nous allons organiser un petit jeu dans lequel nous allons vous proposer deux mots et vous allez devoir en choisir un seul. Est-ce que vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Je vais commencer avec le premier dilemme. Alors, 24 février 1972 ou 17 mai 1972 ?
24 février 1972, c'est ma date de naissance. Merci. Sur ma fiche Wikipédia, il y a les deux dates de naissance.
Merci. Nous allons poursuivre avec les autres dilemmes, du coup.
Science-fiction ou réalité ?
La science-fiction permet parfois de mieux parler de la réalité parce qu'on anticipe un petit peu ce que la réalité pourrait donner. Mais j'essaye toujours de parler de la réalité, même quand j'écris de la science-fiction.
Fantasy ou polar ?
Polar. Polar, même si j'en écris pas. Mais j'en ai lu beaucoup à une époque et j'y reviens de temps en temps. La fantasy, c'est quelque chose... j'ai vu beaucoup plus de films que je n'ai lu de livres de fantasy. Ce que me reprochent beaucoup mes enfants.
Planifié ou spontané ?
Alors, si c'est une question par rapport à mes romans, c'est spontané. C'est-à-dire que je ne sais jamais, quand je commence un livre, comment il va continuer. Mais ce que je planifie, en revanche, c'est la situation de départ pour qu'elle me paraisse suffisamment riche et qu'elle regroupe suffisamment de personnes pour qu'il se passe quelque chose à un moment. Donc, en général, je les place d'emblée à un moment où ça se passe mal, pour qu'il y ait une histoire. Mais je ne planifie pas ce qui va leur arriver.
Espoir ou désespoir ?
Espoir, au fond du désespoir. Vous avez vu, je triche, je ne choisis pas une fois sur deux. Il me semble que, enfin moi, ce qui m'intéresse dans mes romans, c'est la désillusion, c'est-à-dire la perte des faux espoirs. Et un regard, si possible, le plus précis possible sur la réalité. Mais la réalité, je crois toujours qu'il reste quelque chose à faire. Simplement, j'aime pas, dans mes romans, me raconter des histoires et résoudre tous les problèmes facilement.
Talent ou travail ?
Travail tous les jours. Pour écrire un bouquin, il faut y passer des milliers d'heures. Et une personne qui vous dira « j'ai pensé à un livre un jour, je l'ai écrit en deux jours et il était là », soit c'est un menteur, soit le livre est très mauvais.
Soutenu ou familier ?
Les deux et même les trois, tous les genres, que ce soit soutenu, ordinaire, familier, grossier, etc., m'intéressent. Simplement, il faut les doser. Dans Black Cloud, il y a plein de gros mots. À chaque fois, il y a des petites étoiles pour qu'ils ne soient pas prononcés. Donc, à l'oral, ça aurait fait plein de bips, ça aurait été marrant. Dans la vie, on emploie tous les registres. Et donc, dans les livres, il faut les employer tous. Simplement, un registre qui serait permanent ferait perdre de la force à ce registre. Si j'écris qu'en phrases un peu savantes, un peu ampoulées, un peu complexes, Il y a un moment, ça endort. Si j'écris qu'en phrases extrêmement grossières, familières, etc., il y a un moment, ça révulse. Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est un gros mot ou un mot savant, mais dans une langue la plus fluide possible pour qu'il produise un effet de choc qui l'arrête, le lecteur. Le but, c'est comme en musique, c'est de créer de temps en temps des syncopes et des moments où ça s'arrête, quoi.
Horreur ou survie ?
Oh ben l'un n'empêche pas l'autre. S'il y a un peu d'horreur, il y aura encore plus envie de survivre, quoi. Après, j'ai jamais écrit dans le registre de la pure horreur. Ça m'intéresserait. Il y a une éditrice qui m'a proposé. J'avoue que je suis tenté. Ce qui m'intéresse, en fait, dans un genre comme l'horreur qui est très codifié, on ne prend pas le temps de développer tout le reste. Et même dans une situation horrible comme certaines personnes peuvent en vivre aujourd'hui dans la réalité, il y a aussi du trivial, du quotidien, du familier, de l'amour, de la tendresse, etc. Et il faut que ça apparaisse. Ce qui est horrible quand une ville est bombardée, c'est que 2 minutes avant, des gens se sont embrassés comme chaque jour pour partir à l'école, au boulot, ou cherchent dans les décombres de quoi trouver à manger. Et si tu es que dans le registre de la pure horreur, en réalité, tu restitues pas ce qui est horrible, c'est-à-dire la brutalité avec laquelle quelque chose s'arrête. Voilà. Et donc, même quand je mets des insectes géants, dans un tome de Black Cloud, ça m'intéresse qu'ils interviennent dans un registre qui soit à la fois le registre aussi de la création d'une amitié, d'une fratrie qui s'aime, qui se soutient, qui se supporte, qui s'inquiète les uns pour les autres.
Jour ou nuit pour écrire ?
J'ai beaucoup écrit de nuit. Comme de jour. Alors, du coup, j'écrivais beaucoup chaque jour. J'étais hospitalisé pour surmenage, donc j'ai choisi le jour et la nuit, j'essaye de dormir. Mais un roman, il continue de s'écrire la nuit toujours. Quand tu termines, quand il y a un grand auteur américain qui s'appelle Hemingway qui disait relancez toujours la machine avant de vous coucher. C'est-à-dire, plutôt que de t'arrêter à la fin d'un chapitre, tu écris les 2 premières lignes du chapitre suivant. Et du coup, ton cerveau, pendant toute la nuit, il va bosser pour écrire les lignes suivantes et tu te retrouves le matin en ayant déjà du matériel, quoi.
Après cette belle interlude, du coup, je nous laisse reprendre et pour en découvrir un peu plus sur votre vie d'écrivain, je nous laisse avec Rafika, du coup, qui va démarrer ce temps.
Quand vous étiez ado, écrivez-vous déjà des histoires ?
Pas du tout. Quand j'étais ado, j'étais un très gros lecteur. Je croyais sincèrement que je n'aimais pas lire des romans parce que les romans qu'on me faisait lire au collège n'étaient vraiment pas mon genre de beauté. Donc, je lisais des livres d'histoire, beaucoup. Et puis un jour, j'ai découvert une littérature qu'on ne m'enseignait pas au collège, qui était toute la littérature américaine d'aventure. J'ai adoré ça, j'ai passé ma vie dans les livres, mais je n'imaginais pas pouvoir un jour être écrivain, et je ne crois pas que ça m'intéressait non plus, cette idée-là. C'est venu bien plus tard.
Pourquoi écrire des romans de jeunesse ? Le thème de vos livres est plutôt destiné à un public mature, adulte ?
Oui, mais les ados sont des super lecteurs. En gros, un ado, soit il lit plus un livre, soit il en lit une 20aine par an. Les adultes, en moyenne, lisent 2 livres par an. Donc ça me fait des lecteurs. Ceux qui lisent pas, malheureusement, je les croise pas. Ceux qui lisent, lisent beaucoup. et donc sont parfois plus exigeants et critiques que certains lecteurs adultes. Deuxièmement, parce que j'ai commencé à écrire pour mes enfants. Donc j'ai commencé par écrire des histoires pour les gamins de 6 ans, et puis ils ont grandi, donc je me suis mis à écrire pour les ados. Troisièmement, parce que ce que m'a appris l'écriture en jeunesse, c'est que mes états d'âme ne comptent pas. Ce qui compte, c'est les états d'âme de mes personnages. Donc j'ai pas à polluer mon roman en m'en donnant mon avis sur l'état du monde, etc. Ce qui est bien intéressant, mais pas plus que la vie de chacun. Donc moi, je dois chercher à savoir ce que pensent mes personnages d'une situation et pas ce que je pense moi. Et je sais bien que mes lecteurs en ont strictement rien à faire. Là, j'allais dire rien. J'allais utiliser le registre plus familier, voire grossier, mais strictement rien à faire des états d'âme d'un type de 50 ans. Donc, ça m'oblige à être meilleur romancier, c'est-à-dire à faire exister des gens qui ne sont pas moi. Et voilà. Et puis, il se trouve par ailleurs que les éditeurs, les auteurs jeunesse que je côtoie sont plutôt des gens sympas et que l'ambiance est plutôt bonne et que je vends plutôt beaucoup de livres, ce qui n'est pas forcément le cas quand j'ai publié en adulte, donc je suis bien à cet endroit-là. Voilà. Mais mes enfants sont devenus grands, ils sont plutôt en littérature vieillesse, donc il va falloir peut-être que je réfléchisse à publier aussi en littérature générale ou de genre, on verra.
Est-ce qu'écrire des romans demande le même travail que d'écrire de la poésie ?
Alors, j'ai jamais écrit de poésie. Une fois, j'ai essayé. Ma femme a beaucoup ri. Franchement, ça me semble pas du tout le même élan. Un roman, pour moi, c'est au moins 4 mois, tous les jours. Donc, c'est vraiment labourer quelque chose. Et puis, c'est de l'ordre de... Ça demande de l'endurance, de la course de marathon. Les copains que je connais qui écrivent de la poésie m'ont dit que c'était parfois une très lente infusion, mais qu'au moment où ils écrivent, le texte, il vient en général assez vite, en 1, 2, 3 jours. Donc je crois que ce n'est pas le même genre de rythme.
Dans votre livre, vous parlez d'une planète noire. Pourquoi parler d'une planète noire où la vie des humains est en danger ?
J'aime bien le thème de la catastrophe parce que ça me paraît un thème utile pour parler de notre société. Pourquoi ? Parce qu'on vit sans arrêt, peut-être encore plus dans cette semaine, dans la perspective d'une catastrophe à venir. On nous promet sans arrêt la catastrophe pour demain. Et je trouve ça intéressant de nous placer dedans. D'abord parce que je suis convaincu qu'il y a des catastrophes qui sont déjà en cours. Hein. La chute de la biodiversité, ce n'est pas en 2050, c'est en cours. Et parce que d'autre part, elles permettent de mieux penser l'époque. Je te donne un exemple. On vit dans une situation où c'est un geste parfaitement naturel d'ouvrir un robinet et d'avoir l'eau courante. C'est un geste parfaitement naturel d'appuyer sur un bouton et d'avoir de la lumière. C'est un geste parfaitement naturel d'ouvrir le frigo et d'y trouver à manger. S'il n'y a plus d'électricité, d'eau potable et de nourriture accessible, on est obligé de repenser toutes ces choses naturelles. Or, ces choses ne sont naturelles que de façon très exceptionnelle. Il y a encore une majorité de l'humanité qui n'a pas d'eau courante. Et dans l'histoire des siècles de l'humanité, c'est plutôt une exception, ces conforts-là. Et on a parfois le sentiment, nous, que la technique nous enferme un petit peu. C'est-à-dire, on sait très bien que notre premier réflexe quand on débarque à un endroit, c'est est-ce qu'il y a la 4G, est-ce qu'il y a du Wi-Fi, et comment on fait, est-ce que je peux recharger mon téléphone ? Ok ? à la fois, c'est la première chose qu'on regarde, et on sait très bien en même temps que cette dépendance aux objets nous empêche. Donc, chaque fois qu'il y a eu des très grands progrès techniques dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois, on a eu des récits catastrophes qui nous posent la question comment on ferait sans ces progrès. Et voilà, moi je raconte une catastrophe pour essayer de réfléchir à ça.
Merci Vincent. Alors,
elle voulait rajouter. On n'a pas le temps ?
Non.
Non, pardon.
On reprendra plus tard.
Je suis beaucoup trop long dans mes réponses. Je vais faire plus court.
Non, vous inquiétez pas. Alors, merci. J'aimerais vous remercier. Et après avoir parlé de Planète Noire, je vous propose à tous de rentrer dans l'atmosphère et d'écouter un petit extrait de lecture qui va durer pas très longtemps.
Il faisait encore nuit ce matin-là, quand papa nous réveilla en allumant la chambre. Nuit noire, ça se voyait à la fenêtre. C'était l'obscurité comme le matin de collège en janvier. On était pourtant un dimanche d'avril. Qu'est-ce qui le prenait de nous réveiller si tôt ? The Crow grogna. Qu'est-ce qui se passe ? Je demandai. Je ne sais pas, répondit papa. Un coup d'œil pour vérifier à ma montre, chrono, altimètre, boussole. En fait, il ne nous avait pas réveillés plus tôt. Mon réveil marquait 9h30. C'était le jour qui se levait plus tard. Trop tard, qui ne se levait pas.
Tout le monde ici cultive un peu, dit papa. Tout le monde va comprendre très vite ce que ça veut dire une année sans printemps. On peut s'attendre à une panique même plus rapide qu'en ville. Je pense que les magasins vont être attaqués, dès demain, quand on va constater que leur accès est réglementé. Et je crois qu'on va être abandonné, qu'il n'y aura pas assez de gendarmes pour empêcher les pillages.
Et du coup, on va faire quoi ?
On va se mettre à l'abri, nous quatre, dès cette nuit.
On va aller voler ?
Oui, d'une certaine façon.
Tu veux qu'on pille avant les pillards, c'est ça ? On va mettre des cagoules ?
Papa hocha la tête, puis la secoua. Non, non, on n'est pas des pillards. Il se leva. Mais quand votre maman est morte, je lui ai promis de prendre soin de vous, quoi qu'il arrive.
Et puis le soir, on commençait à vivre sans papa. The Crow, toute la journée, avait posé des questions. Il revient quand ? Il est où ? Il est au travail ? Vous croyez qu'ils se sont rendus compte qu'on les avait volés ? Et on avait éludé. Parce que Jack m'avait dit : on ne lui dit pas tout de suite la vérité. Mais en revanche, sur ce point, tu ne lui mens jamais. Jamais. Et là, il était 20h30. On ne pouvait plus faire semblant. Jack nous apporta le dîner. Polo, faut qu'on t'explique la situation, dit-il. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On ne sait pas où est papa. On ne sait pas quand il reviendra. Ni s'il reviendra. Nous voilà donc de retour après ce court extrait de lecture et ce jingle absolument incroyable. Vous êtes toujours à l'écoute donc de l'aventure au bout du micro avec moi-même, donc Djabi Ousmane. Juste avant la pause, nous avons parlé plus de votre vie d'écrivain, nous en avons appris plus sur vous. Nous allons donc maintenant nous intéresser plus au thème de votre livre qui est Black Cloud. Je laisse notre journaliste Christina débuter.
Du coup, d'après ce qu'on a compris du livre, c'est un livre qui parle d'un monde où on vit, qu'on vit dans un monde où on est attaqué, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de l'eau à boire, les magasins sont fermés et que la nuit tombe. En fait, ça ressemble vraiment comme si c'était vraiment une guerre qui se passe. Et je pense que vous avez très bien résumé, mais quelles sont les inspirations que vous avez eues pour ce livre ?
L'inspiration, c'est toujours compliqué. Moi, je vis dans un endroit qui est à peu près l'exact inverse du lieu que j'ai traversé pour venir aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un centre commercial avec énormément de choses. C'est un tout petit hameau dans la montagne ardéchoise avec une vieille maison, un bout de forêt en dessous. Donc ça, c'est mon inspiration principale parce que c'est le décor de mon livre. Le roman se passe dans ma maison. Et je suppose qu'un matin, je me suis levé pour écrire avant l'aube et que je me suis dit, tiens, ben, la première idée, c'est tiens, si ça ne se levait pas ce matin, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà. Après, l'inspiration de départ, elle a peu d'importance. C'est, tu te dis, tiens, cette situation serait intéressante. Mais tant que tu n'as pas fait exister des personnages, ça reste une idée. Une idée pour un scénario, pour une BD, pour une série télé, pour un film. Pour que ça devienne un roman, il faut trouver des personnages qui se mettent à exister. Là, en l'occurrence, les trois frangins, Jack, Léo et The Crow, qui sont trois frères qui vivent dans cette maison avec leur père. Leur mère est morte, vous l'avez entendu dans l'extrait, et qui vont devoir se confronter à cette situation. Ce que va provoquer cette situation, j'en sais rien quand je commence l'écriture. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, je trouve des personnages dont je comprends comment ils parlent, comment ils existent, comment ils agissent, comment ils décident pas, et que c'est ça qui va entraîner toute la suite.
Quand, comment et pourquoi avez-vous commencé à écrire ?
À écrire en général ou à écrire celui-là ?
Ce livre-là.
Alors, en fait, j'étais depuis 3 ans et demi dans l'écriture d'un très gros roman que j'ai toujours pas fini, mais que j'espère finir cet été. Et j'avais besoin d'écrire vite autre chose parce que j'étais en train de m'embourber dedans. Un jour où je suis allé croiser mon éditeur à Paris, un monsieur qui s'appelle Xavier, je lui dis, écoute, j'aimerais bien qu'on sorte des bouquins l'an prochain qui soient illustrés et qui s'adressent à des jeunes gens qui ne sont pas des gros lecteurs. Donc, qui ne soient pas trop épais, qui soient en partie illustrés, etc. Il me dit banco. Je ne savais pas du tout ce que les bouquins allaient raconter. J'avais cette vague idée de jour qui ne se lève pas. Et 6 mois après, il y avait le premier tome qui sortait. Donc, on l'a fait un peu à la pirate, à l'arrache, ces livres-là. Mais en fait, on avait écrit pendant le confinement. Moi, j'avais écrit un roman dont je publiais un chapitre tous les jours. Donc, c'était un rythme extrêmement rapide et mes éditeurs éditaient la nuit. Et on avait bien aimé ce rythme-là. Et l'idée, là, c'était de retrouver un rythme beaucoup plus rapide que celui du très gros livre qui sortira peut-être un jour.
Avez-vous fait des recherches sur Internet ?
Non, pour celui-là, je n'ai pas eu besoin de recherche, puisque, encore une fois, ça se passe chez moi. Alors, tu fais toujours des recherches. Quand j'ai des mantes religieuses géantes, il faut que je m'informe qu'est-ce qu'elles mangent quand elles sont normales, à taille normale, et donc qu'est-ce qu'elles pourraient manger si elles mesurent 3 mètres de haut. Si j'ai besoin d'un chien très agressif, je vais aller regarder sur Internet quelles sont les races qui pourraient correspondre, voilà. Des petites recherches comme ça, mais les grosses recherches, je n'ai pas eu besoin d'en faire puisque ça se passe à notre époque et chez moi.
Je vous remercie encore pour ce petit temps. Nous allons passer à une chronique que Clarine nous a préparée, une chronique qui s'intitule « Se réveiller dans le noir ».
Effectivement, lors d'une petite émission improvisée il y a 2 semaines, nous nous sommes posé cette question centrale avec des jeunes de la MJC.
Imaginez-vous un jour, vous vous réveillez et tout est noir. Comment réagissez-vous ?
C'est le thème du débat du jour.
Et en effet, on a eu plusieurs réponses, dont voici la première.
Alors moi, j'essaierai de voir s'il y a des nuages, comment la lune, la forme de la lune.
Mais imaginez que vous ne voyez pas la lune.
J'essaierai de me positionner à d'autres endroits, un peu de la montagne pour voir si elle est vraiment pas là ou pas.
Et oui, il faut d'abord s'assurer qu'on est bien en déj de lumière, que la lune ne peut rien faire pour nous sauver. Mais quand on a 10 ans, la vie est aussi une question de priorité.
Ok, merci. À vous, Solal. Alors, s'il ferait tout noir, je commencerais déjà à paniquer. J'essaie de regarder mon sang-froid, parce que, eh oui, je n'ai que 10 ans. J'irai essayer d'aller au magasin de jeux vidéo pour voler des jeux vidéo. Je suis un peu geek, je sais. Et après, j'essaierai de trouver une solution.
Quel intérêt avez-vous à voler des jeux ?
Bah, parce que, comme le voyez-vous, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais avoir que je ne peux pas acheter. Et si le soleil... Et si je ne vois que des nuages noirs, donc c'est-à-dire rien...
Donc vous profiterez de la panique générale pour commettre des méfaits. Qu'en pensez-vous, Antoine ?
Et oui, voler des jeux vidéo dans le noir, c'est tentant. C'est tentant, mais en même temps...
Bah, c'est sûr qu'en même temps, ça peut être une idée de un peu se déstresser en faisant un peu ce qu'on aime. Mais en même temps, ça peut... Moi, j'essaierais plutôt de comprendre comment ça a pu arriver. C'est peut-être mieux comme ça qu'on pourrait en fait résoudre le problème.
Donc jouer ne résoudra pas forcément la situation, mais par contre, cela pose la grande question de notre dépendance à l'électricité.
Et essayer d'inventer des jeux vidéo qui marchent avec des nuages, à l'ombre. Alors, les scientifiques n'ont pas encore trouvé comment les jeux vidéo peuvent marcher à l'ombre. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. Mais, c'est vrai que piquer quelques matériaux, ça peut être utile. Mais bon, bien sûr, j'utiliserai ma lampe torche pour essayer de faire pousser des plantes aussi.
Donc, en attendant la révolution de l'énergie ombraire, d'autres solutions, moins technophiles, ont émergé du débat.
Est-ce que la musique, notamment, en fait, que ce soit dans le noir, est-ce que c'est pas un moyen de ramener la lumière ?
Intervention incroyable d'Antoine. Et Benjamin, enfin Franck, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
La musique ramener la lumière, franchement, scientifiquement parlant, c'est n'importe quoi.
Vous aurez reconnu la voix du grand guitariste Franck, dont on va justement écouter l'un des hits. Here comes the sun.
Revoilà de retour sur notre plateau, notre émission préférée, après cette interlude vraiment qui nous a fait du bien. Alors, après avoir entendu cette émission autour de la question se réveiller dans le noir, j'aimerais vous poser la question à vous, journaliste et auteur. Pour vous, se réveiller dans le noir, qu'est-ce que ça fait ?
Pour moi, se réveiller dans le noir, déjà, ce n'est pas du tout habituel. Du coup, ça fait... en tout cas, pour moi, ça ferait naître une certaine anxiété, car c'est à part dans certains pôles, à certains moments de l'année, c'est très rare. Enfin, c'est déjà, on n'a pas du tout cet esprit survivaliste que certaines personnes ont. Du coup, on est là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va mourir, qu'est-ce qui se passe. Donc pour moi, ce serait un peu de la panique déjà comme premier sentiment.
Bah, de la panique, de la peur donc.
Oui, je pense que se réveiller dans le noir, c'est vraiment quelque chose imaginable, pas imaginable, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais si jamais ça arrivera un jour, ce que je pense pas, c'est que... C'est que voilà, il faut avoir de l'électricité, ça c'est sûr.
Moi je pense que ce que je ressentirais, si par exemple je me réveille et je vois c'est 15h et il fait encore noir, je me rendormirais. Et si je vois que quand je me réveille, il fait encore noir, je me suicide. Parce que je pense que ça va durer pendant longtemps comme ça, et flemme.
Solution non recommandée par mes soins. Nous allons donc enchaîner avec un deuxième extrait de lecture, donc la suite de ce que nous avons pu entendre au début.
C'était samedi, en fin de matinée. L'obscurité continue de régner sur le monde. J'étais chargée de préparer un ragoût avec de la viande congelée et des patates. Parce qu'on avait fini les provisions fraîches. Enfin, Dieu merci. Bientôt, on aurait aussi vidé le congélateur, et ce serait l'air baigné de la paella. Je venais de tourner mon ragoût, presque prêt, sur la plaque d'induction, quand soudain, ce fut le noir complet. Dedans comme dehors, l'électricité s'arrêta d'un coup, comme ça. René Grivel n'est pas vraiment nazi. Enfin, je suppose. Mais c'est vraiment notre voisin. Notre seul voisin. On habite deux maisons de pierre presque contiguës, séparées par seulement 200 mètres à peu près, et qui constituent les deux seules demeures occupées de ce hameau, entourées par des hectares de terres cultivées, surtout par lui, et de forêts hantées, surtout par nous, et de fermes en ruine, désertes. Il a un drôle de visage, très rouge, grêlé, des joues où des veines éclatent parfois, et des petits yeux méchants.
Campus, fréquence.e, 90.8. Radio Campus, fréquence 90.8.
Radio Campus. Et...
Alors, de retour à la bibliothèque Kateb Yassine, pardon, nous allons enchaîner avec Rafika. Qui va vous poser une question pour vous.
Pourquoi les frères ont décidé de mettre la nourriture dans une pièce à l'extérieur alors qu'ils pouvaient la mettre dans leur maison ?
Ils l'ont mise dans la cave, je sais pas pourquoi. Parce que sans doute parce que c'est la pièce la plus fraîche de la maison. Sans doute aussi parce que ça permet de garer le camion, quand ils ont pillé le Super U, de garer le camion juste devant. Et comme ils ont l'équivalent d'un an de provisions à rentrer dans la maison, c'est l'accès le plus simple. Voilà, j'ai pas vraiment réfléchi, moi c'est ce que j'aurais fait. Mais peut-être que c'est une erreur lourde, ouais.
Au moins nous savons quoi faire si un jour il y a un Black Cloud. Ok. Nous allons donc enchaîner avec un troisième extrait de lecture.
En l'absence de soleil, le royaume avait changé. Nos lanternes révélaient une forêt de cauchemars. La nature, égarée par l'absence de lumière, était retournée en hiver, mais trop brutalement, sans préparation. Les feuilles neuves avaient bruni, avant les fleurs. Parfois, elles tombaient, comme fin novembre. Parfois, elles pendaient comme des choses craquantes et mortes au bout des branches. Ça ressemblait aux conséquences d'une gelée de 7 jours en plein printemps. en 10 fois pire. L'herbe avait noirci. Sous nos pieds, ça craquelait et ça pourrissait. Humidité, moisissure.
J'entendis The Crew dévaler les escaliers. Il devait être dans sa chambre. Il dit en entrant dans la cuisine.
Le nazi, il arrive. Il s'est garé dans le chemin devant la cave.
À ce moment, on cogna à la porte vitrée. Je me retournai, Grivel était là. J'hésitais à lui ouvrir. Mais même si la porte était en verre renforcé, il avait son fusil à la main.
Radio Campus Grenoble, avec une fréquence 90.8. Merci à tous et à toutes.
Radio Campus, la meilleure radio.
Passons maintenant à... J'aurais plutôt une question à vous poser par rapport à un autre thème, le thème de survivre ou mourir. Avez-vous du mal à tuer vos personnages? Êtes-vous attaché à eux?
Je suis très attaché à eux. Et c'est toujours un grand malheur pour moi quand l'un d'eux meurt. Cela dit, dans mes romans, il y a beaucoup de personnages qui meurent. C'est même presque une constante. Et mes lecteurs qui me suivent d'un roman à l'autre ont fini par le savoir et sont parfois très inquiets dès le début de la lecture quand ils s'attachent à un personnage. Parce qu'ils savent qu'il peut disparaître n'importe quand. J'ai poussé l'expérience un peu loin dans un roman qui s'appelle « Comme des sauvages » qui est posé là sur la table, où les personnages principaux et même les narrateurs disparaissent les uns après les autres, ce qui a beaucoup dérouté les lecteurs et les lectrices. Normalement, celui qui raconte l'histoire, il ne doit pas disparaître avant la fin de l'histoire. Et du coup, ça m'a permis de jouer un peu avec ça. Ce n'est pas qu'un jeu. J'ai des personnages qui ont 15, 16, 17 ans. Quand quelqu'un meurt à 15, 16, 17 ans, on a le sentiment d'un gâchis complet. Et ce sentiment-là, il vient aussi du fait qu'on se dit « mais tout ce qui aurait pu se passer ». Pour lui. Et quand ça se produit dans un roman, je veux que mes lecteurs aient le même sentiment de gâchis. Voilà. Donc ça me permet de réfléchir sur la mort, qui est un sujet intéressant, somme toute. Pendant que j'écrivais, pendant le confinement, j'ai écrit 2 scènes d'obsèques à une époque où les gens étaient empêchés d'aller enterrer leurs proches. Et j'ai des gens qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir fait ça. Voilà, c'est pas un sujet gay là, mais il me semble que ça fait partie. On définit l'humanité par les premières sépultures, par les premières traces de gens qui enterrent d'autres gens. Ça dit quelque chose de notre humanité depuis le début, donc ça m'intéresse que ce soit dans les romans. Et dans Black Cloud, il y a une histoire de sépulture, mais évidemment, dans Black Cloud, je peux avoir des zombies.
Pourquoi avoir décidé de faire mourir le personnage de la mère dès le début ?
Ah, je la fais pas mourir, elle est morte avant le début, en fait. C'est différent. Mais après, c'est un grand problème qu'on a en littérature jeunesse, c'est qu'il faut tuer les parents. Sinon, il n'y a pas d'histoire. On est obligé quand même que nos personnages de 12, 15, 20 ans soient responsables d'eux-mêmes. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est rarement le cas. Donc il faut supprimer les parents. Donc soit ils sont très loin et on est empêché de les retrouver, soit ils meurent dans une scène un peu spectaculaire au début. Voilà. Ça fait partie des enjeux. Moi, je ne les tue pas toujours, les parents, mais parfois, ça fait des bonnes scènes, ouais.
Quelle est la morale de votre livre ?
je sais pas. J'écris pas des contes, donc a priori, il n'y a pas de morale. J'espère que tous mes livres posent plein de questions à chaque lecteur, chaque lectrice, et qui peut se dire, comme on l'a entendu tout à l'heure, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là ? Comment je saurais me débrouiller ? Est-ce que je me méfierais d'un tel ? Est-ce que je ferais confiance à un tel ? Voilà. C'est plus poser des questions qu'aboutir à une morale.
Radio Campus, la radio. Radio Campus, fréquence 90.8.
Lors de notre petite émission improvisée d'il y a deux semaines, on s'est posé une autre question.
Si vous vous réveillez, que vous arrivez et tout est noir, quelle est au fur et à mesure la première chose qui va vous manquer ?
Bah, moi personnellement, juste tout simplement sortir dehors, voilà.
Moi ce serait le soleil et plus jouer au football, ce serait un peu triste. Plus aucun sport.
Moi j'aime bien prendre mon petit déjeuner devant le soleil, alors sans soleil c'est pas ouf.
Moi je le mange plutôt devant la télé, alors ça va. Mais surtout aussi, je me dirais surtout que c'est l'apocalypse. Je sais pas, qu'on va peut-être tous mourir, que des zombies vont arriver par une centrale nucléaire, je sais pas. Je vais me dire que tout est possible maintenant.
Mais juste...
De retour sur notre émission favorite. Alors nous allons continuer autour de la question qui a déjà été posée, que tout le monde a entendu. S'il n'y avait pas de soleil, si vous réveillez sans soleil, qu'est-ce qui vous manquera en premier ? Donc, Rafika, dis-nous.
La première chose qui me manquera sera l'électricité. Parce que sans électricité, on ne peut rien faire.
La question c'était, sans soleil, si tu te réveilles sans soleil, qu'est-ce qui te manquera en premier ?
Bah, pareil, de l'électricité. Enfin, déjà, c'est essentiel pour vivre.
Pour moi, ce qui va me manquer le plus rapidement, je pense, c'est la chaleur. Parce que, enfin, je pense qu'on va vite fait bien fait avoir froid. Et la chaleur avec les rayons du soleil sur le visage, c'est la chose que je pense, le matin, quand je me réveille, la chose que je préfère le plus.
Je pense qu'on pense la même chose. Du coup, ce sera la chaleur, bien sûr, et la vue de dehors. On a de la chance de sortir dehors, de profiter, de faire plusieurs choses, de voir la vue des montagnes, de plusieurs choses. Et du coup, le soleil, c'est quelque chose de très important pour nous. Sans le soleil, on peut rien faire. Ça sera tout noir, tout... Il n'y aura pas de sens.
Moi, je pense que la première chose qui va me manquer, c'est le chant des oiseaux. les oiseaux se réveillent avec le soleil le matin chez moi et ça fait ça rythme tous mes petits déjeuners. Donc je dis pas que c'est la chose la plus importante, mais c'est la première qui va me manquer. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller dans le noir, s'il y a de temps en temps des coupures d'électricité chez moi. Je sais où il y a tout le matériel pour allumer un feu, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, si ça dure et que j'entends pas les oiseaux, je pense que je vais déprimer. Ouais.
On retient donc de la dépression chez nos journalistes et auteurs. Mais l'émission n'est pas encore finie puisque les enfants de la MJC ont enregistré tellement de sons que Denis, alias La Vague Imaginaire, a pu faire une track complète comprenant des extraits de lecture et un max de sons choisis ensemble, donc des synthés, des boîtes de rimes ainsi que des enregistrements de la nature dans les monts d'Ardèche. Voilà qui devrait finir de vous immerger dans l'atmosphère de ce livre.
On va comprendre très vite ce que ça veut dire. Allez, sans prendre.
conséquence d'une gelée de 7 jours en plein printemps. En 10 fois pire. L'herbe avait noirci. Sous nos pieds, ça craquelait et ça pleuvait. Humidité, moisissure.
Alors, on remercie Radio Campus et les bibliothécaires qui ont pu rendre ce projet, ces ateliers, cette émission possible. On remercie les jeunes de l'MJC ainsi que leurs accompagnateurs. On remercie Vincent Villeminot. Et voilà, c'était Djabi Ousmane en compagnie des journalistes de l'MJC des Eaux Claires à propos de Black Cloud, le livre de Vincent Villeminot.
Merci beaucoup.